Chapitre 21. Au début de ce chapitre, nous voyons le Seigneur se présenter à Jérusalem selon la prophétie de Zacharie. L'Éternel avait parlé par le prophète, et maintenant, quelques 5 siècles plus tard, l'ânesse et l'ânon étaient là, exactement au bon moment, sous la garde de quelqu'un qui répondrait immédiatement aux besoins du Seigneur. Une fois encore, le Seigneur était clairement manifesté devant eux comme leur Messie et leur roi. Il était né de la Vierge à Bethléem, avait été appelé hors d'Égypte, et s'était levé comme la grande lumière en Galilée, ainsi que les prophètes l'avaient dit. Maintenant, les 69 semaines de Daniel étant achevées, il entrait comme roi dans sa ville. Hélas, le peuple n'a pas pris garde au fait qu'il devait être débonnaire, et que le salut qu'il venait apporter devait s'accorder avec cela, et non pas être fondé sur la puissance victorieuse. Aussi se sont-ils heurtés à cette pierre d'achoppement. Toutefois, pour un court moment, il sembla qu'ils allaient le recevoir. L'exemple des disciples est contagieux, et la multitude lui rend hommage, le saluant comme le fils de David et comme celui qui venait au nom du Seigneur. Mais la réalité de leur foi ne tarde pas à être mise à l'épreuve, car lorsque Jésus entre dans la ville, une question est soulevée : qui est celui-ci ? La réponse des foules ne contient pas de traces de foi réelle. Elles disent : celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée. C'était tout à fait vrai, naturellement, mais cela n'allait pas au-delà de ce qui était évident même pour ceux qui n'avaient pas la foi. De nombreux prophètes étaient venus avant cela, et Jérusalem les avait mis à mort. Jésus vient de se présenter à eux comme roi, aussi, étant entré dans la ville, il va directement dans le temple, le centre même de leur religion, et affirme sa puissance royale en le purifiant. Il avait agi de cette manière tout au début de son ministère, comme nous le voyons en Jean 2. Il le fait de nouveau à la fin. La pratique du trafic et du change dans le temple résultait probablement des dispositions accommodantes de la loi que nous trouvons en Deutéronome 14, versets 24 à 26. Des hommes impies avaient profité de cette ressource pour transformer l'enceinte du temple en caverne de voleurs. Pour Dieu, le temple était la maison où les hommes s'approchaient de lui avec leurs requêtes. Ses gardiens en avaient fait un lieu où l'escroquerie avait cours, et ainsi le nom de Dieu était diffamé. Souiller ou corrompre le temple de Dieu est un péché extrêmement grave. 1 Corinthiens 3, verset 17 le montre dans son application au temple actuel de Dieu. Après avoir chassé ces hommes méchants, Jésus dispense la grâce à ceux-mêmes qu'ils empêchaient d'entrer. Les aveugles et les boiteux n'avaient pas le droit de s'approcher, selon Lévitique 21, verset 18. Et 2 Samuel 5, versets 6 à 8, rapporte la sentence de David contre eux. « Ils n'entreront pas dans la maison, » dit-il. Le vrai fils de David était maintenant arrivé dans Sion, et il fait l'inverse de ce que David avait décidé. Ceux qui étaient haïs de l'âme de David sont aimés et bénis ce jour-là. Les changeurs sordides avaient dénaturé le Dieu dont le temple était la maison et amené les hommes à blasphémer son nom. En guérissant ceux qui étaient dans le besoin, Jésus révélait pleinement le cœur de Dieu. Et alors la louange jaillit. Les enfants aussi crient « Hosanna au fils de David !» Ils font écho aux cris des adultes. Les chefs religieux eux-mêmes sont témoins de ces œuvres merveilleuses de puissance et de grâce, et ils entendent, avec un profond mécontentement, le cri des enfants. Jésus justifie ceci dans leur simplicité et cite le verset 2 du psaume 8 comme trouvant son accomplissement en eux. Le psaume dit « Tu as fondé ta force », tandis que Jésus en donne une autre application en disant « Tu as établi ta louange ». Mais dans les deux cas, la pensée est que Dieu accomplit ce qui est son bon plaisir et qu'il reçoit la louange qui lui est due par ce qui est petit et faible. Il est ainsi démontré que la force et la louange sont l'une et l'autre de lui et par lui. C'est ce que nous avons ici. Lorsque les chefs non seulement se taisent mais s'opposent, Dieu veille à ce que la louange qui convient lui soit rendue par la bouche des petits-enfants. Mais pour le moment, la ville et le temple étaient sous la garde de ces hommes incrédules. Il les laisse donc et va passer la nuit à Béthanie, où demeurait une famille au moins qui croyait en lui et l'aimait. Revenant le lendemain, il prononce sa sentence contre le figuier qui n'avait rien que des feuilles, beaucoup d'apparence extérieure, mais pas de fruits. Sur cet arbre, jamais aucun fruit ne naîtrait plus. Il est entièrement condamné. Et à l'instant, il sèche. L'incident est si manifestement miraculeux qu'il attire l'attention et les commentaires des disciples. La réponse du Seigneur détourne leurs pensées du figuier pour les diriger sur cette montagne. Le figuier était un type d'Israël, plus particulièrement de cette partie de la nation qui était remontée de la captivité et se trouvait maintenant dans le pays. Jugés en tant que nation, il n'y avait rien en eux pour Dieu, et ils étaient condamnés. Et puisqu'ils étaient des échantillons de choix de la race humaine, l'arbre sans fruit présente le fait que la race d'Adam, comme homme dans la chair, est condamnée et qu'il n'y aura jamais en eux aucun fruit pour Dieu. Jérusalem et son temple couronnaient cette montagne qui symbolisait, pensons-nous, tout le système juif. S'ils avaient de la foi, ils anticiperaient ce que Dieu allait faire en ôtant la montagne, afin qu'elle soit submergée dans la mer des nations. L'Épître aux Hébreux montre comment le système juif a été mis de côté et cette montagne a été finalement jetée dans la mer lorsque Jérusalem a été détruite en l'an 70 de notre ère. La chose nécessaire, c'est la foi. L'Épître aux Hébreux met l'accent là-dessus, car c'est elle qui contient le magnifique chapitre sur la foi. Le système israélite n'était, après tout, qu'une ombre des biens à venir et non pas leur réalité. Il fallait de la foi pour discerner cela, et nombre de ceux qui croyaient en Jésus ne s'étaient pas débarrassés des ombres, même lorsque l'Épître aux Hébreux fut écrite. Seul l'homme de foi a accès aux réalités que Christ a introduites, et de telles personnes peuvent prier avec la confiance qu'elles recevront ce qu'elles demandent. Les chefs religieux pressentent que l'arrivée de Jésus à Jérusalem et ses actes merveilleux constituent un défi à leur autorité. Aussi décident-ils d'agir agressivement et de défier la sienne. À cet effet, ils se lancent dans une controverse qui s'étend jusqu'à la fin du chapitre 22. Il en résulte trois paraboles frappantes prononcées par le Seigneur, suivies par trois questions astucieuses des pharisiens et hérodiens, des sadducéens et d'un docteur de la loi respectivement. Le tout couronné par la grande question posée par le Seigneur lui-même qui réduit tous ses adversaires au silence. En lui demandant de prouver son autorité, les principaux sacrificateurs se font fort de déterminer sa valeur une fois qu'il en aurait produit la preuve. La réponse du Seigneur est en fait celle-ci. S'ils prouvaient leur compétence en se prononçant sur la question beaucoup moins importante de l'autorité de Jean, ils soumettraient alors la sienne à leur examen. Cela les plonge dans l'embarras. S'ils reconnaissaient le baptême de Jean comme venant du ciel, ils se condamnaient, car ils ne l'avaient pas cru. S'ils le rejetaient comme étant simplement des hommes, ils perdaient leur popularité face au peuple qui le considérait comme un prophète. Ils tenaient très fort à cette popularité, car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Jean 12, verset 43. Ils ne voulaient pas dire que le baptême de Jean était vrai et ils n'osaient pas dire qu'il était de nul effet. Aussi se placent-ils sur le terrain de l'ignorance en disant « Nous ne savons ». Ils se disqualifiaient ainsi pour juger et perdaient tout motif quelconque de protestation lorsque Jésus refusa de révéler son autorité. La puissance de Dieu qu'il détenait lui donnait son autorité à l'exclusion de toute autre chose. Mais il n'en voulait pas, et il l'avait même attribué à l'énergie du diable, comme nous l'avons vu auparavant dans cet évangile. Le Seigneur mène maintenant le débat par ses paraboles. En les examinant, nous constaterons que la première concerne leur attitude en tant que placée sous la loi, la deuxième en tant que mis à l'épreuve par la présence du Fils de l'homme sur la terre, la troisième est prophétique et considère la réponse qui serait faite à l'Évangile. L'ordre divin est respecté, la loi, le Messie, l'Évangile. Jésus introduit la première par ces mots « Que vous en semble ?» verset 28. puisqu'il soumettait cette courte parabole à leur jugement et leur donnait l'occasion de se condamner eux-mêmes. La parabole des deux fils en Luc 15 est relativement longue, tandis que celle que nous avons ici est très brève. Mais dans l'une et l'autre, les mêmes deux classes sont dépeintes. Les chefs religieux d'une part, les publicains et les pécheurs d'autre part. Ici, cependant, nous avons leur responsabilité sous la loi, tandis qu'en Luc 15, c'est leur réception selon la grâce de l'Évangile. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, l'image de la vigne est employée pour parler d'Israël sous la loi. Aussi les paroles « Va aujourd'hui travailler dans ma vigne » expriment-elles de façon très appropriée le commandement de l'Éternel. Elles sont souvent citées comme un appel aux chrétiens à servir leur Seigneur dans l'Évangile, mais tel n'est pas leur sens premier si nous les lisons dans leur contexte. Le chapitre 9, verset 38, Jean 4, verset 35 à 38, et d'autres passages, nous montrent que l'image qui s'appliquerait plutôt à nous est celle du travail dans la moisson et non pas dans la vigne. Le mot important sous la loi était « fais ceci », car l'homme doit travailler. Mais par les œuvres de loi, nulle chair n'a été justifiée. La parabole fait ressortir ce fait, car aucun des deux fils n'est caractérisé par une obéissance entière. L'un fait une belle profession en parole, mais désobéit complètement. L'autre refuse d'abord catégoriquement, mais ensuite il est amené à la repentance et à l'obéissance comme fruit de celle-ci. De la même manière, les principaux sacrificateurs et les anciens se trompaient eux-mêmes par leur profession religieuse, alors que les publicains et les prostituées se repentaient et entraient dans le royaume. Au verset 32, le Seigneur lit clairement ce fait avec le ministère de Jean. Ce dernier est venu à la fin de l'économie de la loi, appelant à la repentance ceux qui avaient failli sous elle. Le Seigneur lui-même rattache donc la parabole à la loi et non pas à l'Évangile. Nous avons ensuite la parabole du maître de maison et de sa vigne. Remarquons qu'il s'agit toujours de la vigne. Or, la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Ésaïe 5, verset 7. Non seulement ils ont failli sous la loi, mais ils ont maltraité tous les prophètes par lesquels Dieu s'était adressé à leur conscience, et finalement nous avons la mission du Fils, venue comme mise à l'épreuve suprême. Les cultivateurs de la parabole représentent clairement les chefs responsables d'Israël, qui ne se limitent pas à répéter leur incapacité à produire du fruit pour le profit du maître de maison, mais couronnent leur méchanceté en mettant à mort le Fils. Ils veulent tout l'héritage pour eux. Ainsi le Seigneur résumait l'accusation contre Israël sous trois titres « Pas de fruits pour Dieu », « Mauvais traitement infligé à ses serviteurs les prophètes », « Réjection et meurtre du Fils ». Après avoir exposé la parabole, il dit de nouveau en quelque sorte « Que vous en semble », soumettant à leur jugement le sort que méritaient les cultivateurs. Ses adversaires s'y prennent quand il s'agit de leurs propres intérêts, sont lents à comprendre tout ce qui est de nature spirituelle et terriblement aveugles. Aussi, ne discernent-ils absolument pas la portée de la parabole et ils donnent une réponse qui annonce la juste condamnation qui allait s'abattre sur leur propre tête. Ils seraient, en deux mots, dépossédés et détruits. Le Seigneur accepte, comme étant correct, le verdict qu'ils ont prononcé sur eux, citant à l'appui le psaume 118, versets 22 et 23. Il était la pierre que, ceux qui bâtissaient, avaient rejetée. Il ne convenait pas du tout au bâtiment qu'ils avaient en vue et ils ne voulaient pas de lui. Le jour vient où il paraîtra pour être le fondement et pour édifier la maison que Dieu a en vue, et cet événement merveilleux entraînera la destruction des hommes méchants et de leurs fausses constructions. Le verset 43 et la première partie du verset 44 exposent les effets présents de sa réjection. Il devient une pierre d'achoppement pour les chefs d'Israël et la nation comme telle, et il s'ensuit que, comme peuple, ils sont brisés. Cela a eu lieu de façon définitive lors de la destruction de Jérusalem. Le royaume de Dieu avait été établi au milieu d'eux par Moïse. Maintenant, il leur était définitivement retiré et il allait être donné sous une autre forme à une nation qui produirait ses propres fruits. Autrefois, Les prophètes avaient dénoncé le péché du peuple et annoncé que Dieu susciterait une autre nation qui les supplanterait. Des passages tels que Deutéronome 32, verset 21, Ésaïe 55, verset 5, 65, verset 1, 66, verset 8, nous l'indiquent. Cette nation naîtra en une fois, au début du millénium, c'est-à-dire qu'ils seront nés de nouveau et ils auront ainsi une nature qui se plaira à faire la volonté de Dieu et les rendra propres à porter du fruit. C'est ce que nous, chrétiens, connaissons déjà, comme nous le voyons en 1 Pierre 2, verset 9. Rachetés et nés de nouveau, nous avons été appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu, et nous pouvons, comme une nation sainte, annoncer les vertus de celui qui nous a ainsi appelés. N'est-ce pas là porter du fruit à sa satisfaction? La seconde partie du verset 44 se rapporte à ce qui arrivera aux incrédules au début du millénium. Les paroles du Seigneur semblent tirées de Daniel 2, versets 34 et 35, et parlent de l'effet en destruction de sa seconde venue sur les hommes, juifs ou gentils. L'enseignement de ces deux versets porte donc sur le brisement national d'Israël, comme conséquence du fait qu'ils ont rejeté Christ, son remplacement par une nation nouvelle, et la destruction finale de tous les adversaires dans la révélation du Seigneur Jésus en flamme de feu. Un trait de lumière pénètre dans l'esprit obscurci des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui ont écouté ces paroles. Ils comprennent que le Seigneur parlait d'eux et qu'à leur insu, ils se sont condamnés eux-mêmes. Quel choc terrible! Battus, ils décident de le mettre à mort. Ils ne sont arrêtés pour le moment que par la crainte de l'opinion publique. Au verset 26, la crainte de la foule a mis un frein à leur langue. Au verset 46, elle les retient encore dans leurs actions.